Popopienne, popopien et tous les autres aussi, bonjour. J'ai la mémoire qui flanche, je me souviens plus très bien. Non, je ne parle pas de mon cas personnel, même si pour être tout à fait honnête, je commence à atteindre un âge où l'on n'attend pas que les fraises soient de saison pour les sucrer avec plus ou moins d'énergie, mais des paroles de cette jolie chanson de Rezvani, interprétée par Jeanne Moreau. Et la mémoire qui flanche, c'est certes pardonnable pour un individu, mais beaucoup moins pour un pays dont elle constitue l'histoire. C'est là qu'intervient le fameux devoir de mémoire, qui consiste, je le rappelle, en une obligation morale à se souvenir d'événements regrettables et rarement glorieux, afin d'éviter que ceux-ci ne se répètent à l'infini. Alors oui, je sais, c'est là une résolution qui, comme toutes les promesses, n'engage que ceux qui les font, mais enfin, ça ne fait jamais de mal de rappeler d'où l'on vient, ce par quoi l'on est passé, ça remet les choses en perspective, comme on dit. Et la pop culture, elle aussi, a bien assimilé cet impératif, et quitte à faire des séries que le public gobe avec délectation, en particulier dans le genre dit policier, pourquoi ne pas s'emparer de cet outil-là pour revisiter une des plus traumatisantes affaires criminelles, puisque crime il y eut, au milieu des années 80. Je parle de l'affaire Oussekine, devenue une édifiante et passionnante mini-série sur Disney+. Qui dit Disney dit « il était une fois », mais là, il s'agit d'une vraie fois. Yam Abbas et Saïd El Alami sont aujourd'hui les invités de Popopop, et Popopop, c'est parti.
France Inter, Popopop, Antoine de Gaulle.
Bonjour Yam Abbas.
Bonjour Antoine.
Bonjour, bienvenue dans ce studio.
Merci.
Nous ne sommes jamais rencontrés.
Jamais, non.
C'est dingue ça.
C'est dingue, vraiment.
Depuis le temps qu'on traîne dans ce métier.
Exactement.
Enfin, qu'est-ce qui s'est passé?
Je ne sais pas.
Je ne sais pas. Bon, enfin, c'est chose faite aujourd'hui.
Voilà,
et vous m'envoyez
tout jamais, à faire. C'est jamais trop tard.
Alors, vous venez de parler avec nous aujourd'hui d'Oussekine, la série créée et réalisée par Antoine Chevrelier, qui est à voir sur Disney+. Nous allons longuement en parler avec Charline Roux, qui nous rejoindra dans quelques minutes, ainsi que Saïd El Alami, qui interprète justement Malik Oussekine dans la série. Mais avant cela, ma chère Yam, j'aimerais que nous passions quelques minutes à parler un peu de vous, car vous êtes actrice, vous avez tourné dans plus de 60 films, avec entre autres Amos Gitai ou Steven Spielberg, par exemple, mais aussi réalisatrice, productrice, écrivaine, et vous faites tout ça en français, en arabe, en hébreu et en anglais. Alors, la question de l'identité doit forcément se poser en des termes un petit peu particulier pour vous, non?
Je crois et je crois pas. Je ne sais pas, en fait. Effectivement, l'identité pour moi, c'est vraiment quelque chose que je traîne depuis mon enfance, parce que être palestinienne née en Israël, c'est déjà être vraiment dans un questionnement d'identité. Mmh. C'est depuis jeune âge, même sans choix personnel. Mmh. Et du coup, je crois que tous ces questionnements sur l'identité ont fait que, à un moment, j'ai dit, je vous laisse tranquille et je vais chercher la mienne quelque part. Et effectivement, est-ce que je l'ai trouvée vraiment dans cette vocation de l'actrice ou réalisatrice au cinéma ou à la télé ou pas? Je suis toujours en chemin, en fait. Donc, je ne sais pas.
Et
je cherche toujours.
Et loin d'être fini. Alors, avec ce mélange de langues, ce jeu de miroir d'identité, vous regardez la France contemporaine, où vous vivez depuis plus de 30 ans maintenant, avec le regard de quelqu'un qui vient de l'extérieur, ou bien vous vous sentez totalement à l'intérieur?
Forcément, moi, je me sens très, très à l'intérieur.
Ouais.
Sauf que, des fois, en fait, on vous gicle presque, et on vous fait sentir que vous n'êtes jamais de l'intérieur.
Ouais.
Et donc, je me bats pour être à l'intérieur. Mmh. Et je crois que ma place est à l'intérieur.
Mmh. Il y a des mots que vous préférez dans une langue plutôt que dans une autre. Par exemple, moi j'ai toujours préféré le mot butterfly.
Oui.
À papillon. Je trouve que ça correspond mieux à la chose. Vous voyez, je le vois tout de suite, le butterfly. Vous avez ce genre de préférence aussi?
Absolument. En fait, je trouve que c'est quelque chose de très poétique de pouvoir voir une image avec un mot qui appartient à un endroit de la tête qui pense dans une langue et pas une autre. J'ai pas d'exemple maintenant, mais c'est vrai que certainement chez moi prennent en fait une place que quand je l'ai dit aux autres personnes qui parlent la même langue que moi, ils me disent oh vraiment. Mais c'est vrai que il y a en fait beaucoup de mots à sonorité un peu semblable à l'action qu'ils veulent présenter, mais j'ai si dans l'émission je pense à quelque chose de spécifique,
vous me direz en cours de
je
route.
Le dirai, mais là j'ai pas vraiment un mot en tête.
Nous sommes ensemble jusqu'à 17h, rassurez-vous. Yamabas, nous allons revenir dans quelques instants sur votre carrière, sur votre vie assez extraordinaire, mais pour l'heure je vous propose d'écouter ensemble un morceau qui tournait beaucoup sur ma platine en 86, année de l'affaire Ousekine, c'est Always the Sun des Stranglers. Des Stranglers en compagnie d'Yamabas, notre invitée aujourd'hui avec laquelle nous parlerons dans quelques minutes d'Ousekine, la série événement d'Antoine Chevrolier sur Disney+. Et pour l'instant, Yam, je vous propose de revenir un moment sur ce fameux parcours, parce que rien ne vous prédestinait à devenir actrice, encore moins à collaborer avec des stars hollywoodiennes. Vous êtes née en Palestine à une époque et dans un milieu où c'était tout simplement inimaginable. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que votre désir de jouer là, a fini par l'emporter sur tout le reste? Ça s'est manifesté très tôt, hein. Vous étiez
Oui, exactement. Mais après, c'est resté comme une motivation, mais vraiment très intérieure, en fait. Je grandissais et je voyais que mes attirances étaient plutôt dans la littérature, dans tout ce qui était expression artistique, sans choix nécessairement du jeu avant tout. Ouais. Mais ce qui m'est proposé à moi, c'était le jeu parce que j'avais des cours à l'école que je pouvais suivre. Donc c'était simple, c'était presque un cadeau du ciel. Après, quand j'ai fini, mes parents attendaient à ce que vraiment je devienne avocate.
Oui, c'est ça, que vous rentiez dans le droit.
Un métier respectable, comme on dit chez nous. Et donc, vraiment, j'ai senti que le temps avançait et moi, je rétrécissais, en fait, dans mon être et je suffoquais. Donc, je me suis dit, je ne pouvais pas vivre ce qu'ils veulent que je sois. Donc, il y a un endroit, il y a un chemin ailleurs, mais que je ne trouve pas, mais qu'il faut que je, continue à chercher.
Ce chemin ailleurs, il est passé d'abord par l'image, parce que vous
par la photo.
Voilà, par la photo.
Donc c'est le choix premier qui s'est proposé à moi, parce que ma sœur était dans une école où il y avait une section photo, un diplôme de 3 ans. Elle m'a dit, si tu veux, discrètement, bah viens et tu verras si ça te plaît, bah tu rentres. Donc je suis allée effectivement et j'ai rejoint cette école. Et à travers la photo, j'ai découvert en fait ma passion vraiment principale qui était le jeu.
Le jeu, mais alors comment on va, rapidement, comment est-ce qu'on passe de la photo aux planches?
Donc j'ai fini mon école, et après j'ai commencé à travailler en tant que photographe. Je rencontre un metteur en scène de théâtre à l'époque qui était le metteur en scène et le directeur du seul théâtre palestinien de l'époque à Jérusalem-Est. Il m'invite de faire des photos chez eux, bon, parce que c'était, tous les artistes en fait s'est réunis comme ça. Donc j'y vais. Je commence à parler avec lui et je crois qu'à certains moments, je parlais de mon désir de jeu et que comment j'aimais ça quand j'étais plus jeune, mais que j'avais pas vraiment la possibilité de développer ça dans ma vie. Il m'a dit, bah si tu veux, bah viens travailler avec nous. Et ça tombait bien parce que presque une semaine plus tard, il partait en tournée en France, à Lyon. Et il y avait une comédienne qui ne pouvait pas faire la tournée. Il m'a dit, tu veux essayer? J'ai dit oui. On répète 3 jours. Et une semaine plus tard, j'étais vraiment sur les planches à Lyon, pour la première fois dans ma vie, à travailler comme comédienne professionnelle.
Bien. Alors, je fais un bond considérable dans le temps et dans l'histoire, parce que maintenant, j'en arrive à une actualité beaucoup plus récente. Vous êtes à l'affiche de l'immense succès que voici.
He stays here. He gets better here.
Well, we can discuss. We'll discuss and get back to you.
No. No discussion. I am his next of kin. I am his proxy. I am in charge. Thank you.
Alors, il s'agit évidemment de la série Succession, créée par Jesse Armstrong sur HBO et dans laquelle vous tenez l'un des rôles principaux aux côtés de Brian Cox. Vous êtes la plus récente femme du richissime patriarche Logan Roy, qui a beaucoup de mal à s'entendre avec les enfants de ce dernier. C'est une série à la fois très drôle, très dure, très, très, très sarcastique. Comment est-ce que vous êtes retrouvée là-dedans?
Bah, on m'a appelé en fait.
Ah, vous n'allez pas me faire le coup du bah on m'a appelé quoi.
Non mais je vous assure, j'étais en train de tourner la série The State avec Peter Kosminski à l'époque et on était je crois dans un endroit à Wales où je ne me souviens plus exactement où c'était. Et donc mon agent il me dit, je connais très bien une directrice de casting à LA, Francine, il me dit Francine, elle voudrait te présenter Adam McKay et Jesse Armstrong. Donc je vais, ok. Il me dit, mais c'est pour un rôle récurrent dans une nouvelle série d'HBO. Ils vont faire le pilote et ils voudraient te proposer un rôle. Et je lui ai dit, allez, sans blague, quoi. Et donc, mais vraiment, je ne croyais pas. Donc après, une semaine plus tard, je me suis trouvée sur Zoom, en fait. À l'époque, c'était Skype, avec Jesse Armstrong et Adam McKay. Et j'avais l'impression qu'ils me disent, pas presque, tu viens et tu fais ce que tu veux. Donc ça m'a fait vraiment un peu bizarre, parce que je ne savais pas ce que j'allais faire. C'était la première fois de ma vie que j'accepte, en fait, où j'y vais dans ce sens-là de faire une série dont je ne savais pas où ça allait, ni ce que ça allait développer pour moi à jouer, mais c'était intriguant. J'ai dit, bah, j'y vais et je vois. Et en fait, le travail avec Adam McKay et Jesse Armstrong, au pilote, c'était tellement intéressant, tellement, ils étaient tellement ouverts d'esprit, parce qu'eux-mêmes, ils cherchaient aussi où aller avec les, et du coup, ils ont pris ce que chacun de nous proposait comme membre de la famille, et de là-bas, ils ont commencé à développer la suite.
Et voilà, et à ma base, dans Succession, cette série absolument démente. Dites-moi, Brian Cox a l'air si méchant et si dur qu'on a du mal à imaginer qu'il puisse être un peu sympathique dans la vie.
Et il est vraiment sympathique, en fait. Il peut être, Brian, un peu dur des fois, mais c'est vrai que c'est un homme avec un cœur tellement tendre,
Bon, je pourrais passer des heures à vous poser des questions, parce que votre filmographie est d'une richesse invraisemblable. Et puis, vous avez tellement d'activités, Iam, je ne sais même plus par quel bout vous prendre. Mais nous sommes là aujourd'hui pour parler de Oussekin. Nous allons en parler dans quelques instants, quand nous allons être rejoints par Charline Roux et Saïd El Alami, pour parler de cette fameuse série d'Antoine Chevrolier diffusée sur Disney+. Mais avant cela, je vous propose d'écouter ensemble un morceau qui, à l'époque, comme aujourd'hui, nous rappelle que la France a plus d'un visage. C'est Douce France, de Carte de séjour et la voix du très regretté Rachida.
Il revient à ma mémoire, des souvenirs familiers. Il revient à ma mémoire, des souvenirs familiers. Il revient à ma mémoire, des souvenirs familiers. Je revois ma blouse noire, lorsque j'étais écolier. Sur le chemin de l'école, je chantais à pleine voix des romances sans parole, vieilles chansons d'autrefois. Douce France, cher pays de mon enfance, bercé de tant d'insouciance, je t'ai gardé dans mon cœur.
Sa douce Picardie, hélas, elle aussi soumise pour une fois à la sécheresse du moment. Charline Roux nous rejoint en compagnie de Saïd El Alami, qui interprète Malik Houssekine dans la série du même nom. Bienvenue à tous les deux.
Et merci. Bonjour.
Et je
bonjour.
Vous présente Ayam, Charline. Alors Charline, pour ceux qui ont la mémoire trop courte ou bien sont trop jeunes, un petit rappel des faits, s'il vous plaît.
Dans la nuit du 5 au 6 décembre 1986, en pleine période de manifestation étudiante, Malik Houssekine meurt sous les coups de policiers, des voltigeurs, ses agents à moto chargés de disperser les manifestants jugés récalcitrants. Malik, lui, sortait simplement d'un club de jazz. La série raconte le combat de sa famille pour obtenir justice. Yam Abbas, vous êtes Aïcha, la mère. Saïd, vous êtes Malik. Et vous n'étiez pas né au moment des faits, mais c'est une histoire que vous connaissez depuis que vous êtes tout petit. Comment et par qui le récit de cette tragédie vous a-t-il été transmis?
Bonjour. Tout d'abord, je pense par mon papa, qui m'en a beaucoup parlé, et après mon frère, de par le rap. Et ils étaient très très sensibles, les deux. Mon père l'a transmis à mon frère, et les deux me l'ont transmis. Ils étaient très sensibles aux injustices, en général. Et du coup, celle-là, elle a marqué la France. Donc, ils sont beaucoup plus vieux que moi. Je suis le petit dernier, donc ils en parlaient souvent quand il y avait des injustices similaires qui se repassaient, et du coup j'en avais entendu parler très très tôt.
Et vous, Yam?
Moi, je n'étais pas en France. Je suis arrivée en France en 89. Mais même si je voulus vraiment m'intéresser, je comprenais pas le français à l'époque. Mm-hmm. Donc, je parlais pas français. Oui. Pendant 2-3 ans en France, je parlais que anglais. Mm-hmm. Et j'essayais d'apprendre le français. Et du coup, je ne savais rien vraiment de l'histoire. Mm-hmm. En fait, avant, je dirais, avant de... que ça soit présenté à moi dans, pour la série.
Et ça, on va y revenir, parce que Saïd, vous parliez de rap, mais ironiquement, l'histoire de Malik Oussekine s'est inscrite dans la pop culture avec la reprise du groupe de rap Assassin dans la BO du film de Mathieu Kassovitz. La haine, c'est ça donnait ça.
Le gouvernement est à la tête d'un État qui assassine.
Assassin, Barbara, Renaud, Abdelmalik, Kerry James, nombreux sont les artistes qui ont répercuté dans leurs chansons cet événement tragique, un trauma national dont on ne connaît malheureusement que les grandes lignes en réalité. C'est le prisme familial, c'est le drame intime qui, selon vous, permet dans cette série de mieux l'appréhender ?
Moi, je crois que oui, parce que vraiment, je crois qu'on en a tous un peu marre d'effacer l'identité personnelle face à des nombres et à des énormités qu'on jette comme ça sur des problèmes qui se passent partout dans le monde. Mais dès qu'on met la main sur une identité et qu'on va chercher à l'intérieur les détails de ce qui pouvait arriver à un individu, bah l'histoire passera mieux. Parce que d'un seul coup, on a une connaissance et on a une compréhension vraiment de ce qui s'est passé, des codes de vie de cette personne, de sa différence. Mm-hmm. Et on a l'impression de se dire « oui, d'accord, ok, je comprends, donc ça fait partie d'eux ». Et donc, à ce moment-là, on rattache l'individu au collectif. Mmh. Et à partir de là, on reconnaît quelque chose et on le considère partie de notre héritage, mais on avance avec et on se bat pas contre. Et le problème aujourd'hui, que toutes ces histoires qui sont des histoires qui existent, mais qui sont des plaies ouvertes dans nos vies, dans nos histoires, nous permettent pas du tout d'avancer. Mmh. Et on trimballe ça. Et ça fait de la haine, et ça fait de l'incompréhension, et ça fait qu'il y a des gens qui viennent revendiquer ça d'une manière très agressive, mais on va les réprimer davantage. Mmh. Et donc, voilà, c'est une façon, en tout cas, de raconter des histoires, de raconter et de se réconcilier avec certaines parties de l'histoire qui est très douloureuse pour certains.
Saïd a l'air tout à fait d'accord avec ses propos.
Totalement. C'est ce que je disais, c'est qu'en fait, la mort de Malik, c'est une chose et c'est une injustice qui est très très violente. Mais ce qu'elle parlait de l'incompréhension, en fait, et de la douleur, c'est que je pense que ce qui est d'autant plus violent pour la famille, et c'est ce qui est intéressant avec les séries, c'est parce qu'on part du prisme familial et de la maman, c'est qu'en fait, c'est subir l'incompréhension après. Subir le manque de justice, subir cette violence-là. Et en fait, de partir aussi de ce prisme intime et aussi de l'autre côté, au niveau de l'état, de ce qui s'est passé à l'intérieur de tout ça.
Kem Abbas, vous disiez il y a quelques instants que vous n'étiez pas en France en 86 quand cette affaire est survenue. Mais que, enfin, c'est ce qu'on raconte. On raconte que quand vous avez lu ce scénario, quand on vous l'a proposé, vous êtes mis à pleurer.
Voilà, qui vous a dit ça? Non, mais c'est vrai. En fait, moi,
vous
je connais très bien.
Vous avez été extrêmement ému par.
Je connais très bien Antoine.
Vous l'avez dit.
Ouais, non, je l'ai dit. Je sais que je l'ai dit. J'assume ce que je dis.
Et moi, donc, j'ai pleuré en regardant. Hein, donc, si ça
non, mais la vérité, voilà. En fait, c'est, je trouve que dans le scénario, il y avait quelque chose qui ressemble beaucoup à ce que je vois dans l'épisode 1. Ça veut dire que Antoine m'a confié le scénario. Je commence à lire et j'ai l'impression que dès le début, je fais que retenir mon émotion comme les personnages. Et je retiens, et je retiens, et je retiens, et je retiens, et je retiens. Et à la fin, la mère qui comprend malgré le manque de mots et dans ce silence terrible, d'un seul coup, elle craque. Bah, je ferme l'ordi. Et franchement, là, j'ai pas compris ce qui m'est arrivé. Mmh. Ça veut dire que j'ai commencé à pleurer, mais d'une manière vraiment... Donc, je prends le téléphone et je me suis dit, j'appelle Antoine, ça va m'arrêter, en fait. Donc, j'arrivais pas à échanger deux mots avec Antoine en lui disant, mais qu'est-ce que t'as fait, quoi ? C'est tellement beau, c'est tellement magnifique, et je crois qu'il s'est mis à pleurer de l'autre côté. Donc, c'est vrai qu'émotionnellement, ça m'a porté même à l'écriture.
C'est la première fois qu'une série s'empare de ces événements. Il était grand temps que la fiction fasse son devoir de mémoire.
Vous savez quoi, c'est une question vraiment très intéressante. Oui, oui, oui. Aujourd'hui, je crois plus que jamais qu'on est du passage dans la vie pour une raison. Donc prenons la responsabilité sur notre passage chacun, vraiment. Oh, wow. Chacun à sa façon, chacun avec sa vocation, oui. Ce qu'il sait faire, ce qu'il peut donner, et donnons, c'est important, vraiment.
Saïd ?
Bah, totalement, je peux juste affirmer ce qu'elle dit, je suis totalement d'accord. Et bah, c'est ça, c'est important que 35 ans après on en parle, c'est que je pense que par la mémoire, c'est comme dans l'ordre de l'intime, quand on a un problème avec quelqu'un, que la personne en face reconnaisse un méfait ou un truc, ou quand on s'ouvre à la discussion, même si le fait est là, je pense que ça peut toujours guérir une blessure, et je pense qu'avec cette série, même avec le film, c'est ce qui se passe, et c'est ce qui est intéressant, en fait, sans céder aux imprécations, sans blâmer, sans attaquer, mais juste en parler, et...
Mettre les choses sur la table.
Exactement.
Oussekine, c'est une série en 4 épisodes créée et réalisée par Antoine Chevrolier, à l'écriture également Faïza Guen, Cédric Ido et Julien Lilti, et ça sonne comme ça.
On n'a pas de nouvelles de Malik.
Il n'est pas chez lui.
On va aller voir.
Malik, vous n'avez pas vu mon frère? Si on en parle à la radio, c'est sûr que les flics savent quelque chose.
Il y a forcément une explication.
Malik a été retrouvé dans une cage d'escalier. Son décès a été constaté.
Je l'ai vu, maman. Ils l'ont massacré.
Pourquoi? Ils vont pas me rendre mon fils.
On n'attend pas qu'ils nous rendent Malik. On attend qu'ils nous rendent justice, moi.
Justice pour Malik!
Oussekine, une très impressionnante mini-série en 4 épisodes diffusée dès demain, le 11, sur Disney+. Comment expliquez-vous tous les deux, Yamabas, Saïd El Alami, qu'il ait fallu attendre 35 ans et une plateforme américaine pour parler de cette histoire française dont Jacques Chirac lui-même disait qu'il avait en partie perdu l'élection de 88 à cause de cette affaire?
C'est une étrange, question qu'il faut poser... tous les réalisateurs, tous les écrivains, tous les producteurs qui ne s'en sont pas emparés. Après, je pense que il faut un moment à tout. Peut-être qu'il fallait que ce soit maintenant. Des fois, on ne peut pas précipiter les choses. Et la preuve en est qu'aujourd'hui, il y a deux projets à ce sujet. Donc,
oui, il y a un long métrage aussi.
Exactement. Donc, ouais.
De Rachid Bouchareb, que j'ai croisé tout à l'heure.
Oui,
oui, vraiment. Ah, vraiment, oui. Dans mon quartier, j'étais en train de manger.
Et qui sera présenté à Cannes.
Exactement.
Mais non, je pense. As-tu la réponse? Mais tant mieux que ce soit maintenant.
Non, mais je crois que vraiment, tu dis ce que j'ai dit à la conférence de presse. Effectivement, c'est difficile de répondre à cette question, mais je n'ai pas l'impression que la réponse est dans nos mains.
Exactement.
En fait, et la réponse, et il faut presque. En fait, la question, il faut la poser vraiment à l'histoire, à la France, à ce qu'on veut garder ou ne pas garder, quoi. Et donc, à partir de là, effectivement, bon, comme un jeune comme Antoine s'éveille d'un seul coup à une nécessité, en fait, qui fait qu'il faut qu'on en parle. Je crois qu'aujourd'hui aussi, j'ai le sentiment qu'il y a beaucoup de jeunes qui portent un peu cette responsabilité de revenir pour expliquer, pour enseigner, pour faire des choses, pour qu'on se trompe pas. Et pour qu'on puisse offrir peut-être un avenir meilleur à la génération qui existe maintenant et qui va venir par la suite. Donc voilà, c'est des questions qu'il faut vraiment poser à nos grands-parents, je crois.
Puisse l'histoire à venir vous à donner raison.
À Chirac.
Bon, Yamabas, Saïd El Alami, je vois que l'heure tourne, il est 16h33, c'est le moment. On va revenir à cette conversation autour de ceux qui ne vous inquiétez pas, mais c'est le moment des pop news.
Et voici l'histoire d'un héros avant qu'il ne devienne un jouet, le tout dans une toute nouvelle bande-annonce. Ici, vous allez entendre, c'est limpide.
Journal de bord, Buzz l'éclair. Après une année complète coincée sur cette planète, l'heure est venue de réparer mon erreur.
Bonjour Buzz, je m'appelle Sox, ma mission c'est de t'aider et je ne renonce jamais à ma mission.
Je ne suis pas de ceux qui abandonnent, moi non plus.
Parfait, veux-tu un gâteau glacé pour rattraper le temps perdu?
Négatif.
Nous devons achever la mission.
À qui parles-tu?
Peu importe. À nous de jouer.
On va s'écraser?
Non. Enfin, si, il y a des risques.
C'était absolument terrifiant. Je regrette de t'avoir accompagné.
Après s'être échoué avec sa commandante et son équipage sur une planète hostile située à 4 200 000 années-lumière de la Terre, Buzz l'éclair tente de ramener tout ce petit monde sain et sauf à la maison. C'est l'histoire des origines du Ranger et Buzz l'éclair, ce sera le 22 juin au cinéma.
À ma gauche, Graham Coxon, guitariste de Blur. À ma droite, Rose Elinor Dougal, ex-chanteuse de The Pipette. Ensemble, ils forment The Wave. Et ce duo vient de dévoiler un morceau intitulé Something Pretty. Le titre de The Wave est déjà dispo et Graham Coxon a annoncé que d'autres titres devaient arriver bientôt.
Avis à tous les obsédés de tyrannosaures, tricératops et autres stégosaures, préparez-vous pour un gigantesque dinorgasme grâce à une série documentaire qui nous ramène il y a quelques 66 millions d'années, quand les océans, les déserts et le ciel étaient occupés par des créatures aussi gigantesques qu'impressionnantes, titre de la série Prehistoric World. Et pour raconter tout ça comme il se doit, c'est une éminence, David Attenborough, qui assure la voix.
Join us for a story you've never heard on a scale you've never witnessed.
Au générique, on note aussi Hans Zimmer pour la musique. Les images sont spectaculaires. On vous glisse la bande-annonce sur le compte Twitter 3615 popopop et Prehistoric World. Ce sera le 23 mai sur Apple TV.
France Inter. Popopop. Antoine de Caunes.
Yes, it's me.
David Attenborough.
Mais oui, ouais. Bien sûr.
J'hésite entre ça et un dino.
Mais
c'était
non,
un peu confusant.
Pas un dinosaure, c'était Sir David. Que vous êtes blessante. Merci Charline, nous sommes avec Iyam Abbas et Saïd El Alami pour parler d'Ousekin, la série sur Disney+.
Et Saïd, avec Malek Lamraoui et Toufik Jalla, vous avez rencontré Ben Ammar et Mohamed, les frères de Malik Ousekin, qui vous ont a priori immédiatement appelé Malik. Que s'est-il passé? Que vous ont-ils dit?
C'est-à-dire, à ce moment-là, bah, ils m'ont appelé Malik, après on a juste discuté.
Mais justement, quelle était la teneur de cette conversation et en quoi ça vous a aidé à préparer
La première fois, on a juste parlé de la vie parce que c'est des gars plein d'entrain, plein de joie, plein de curiosité. Donc, comme un peu Malik, et je l'ai un peu vu à travers eux, quoi.
Mais c'est pas rien qu'ils vous aient appelé comme ça de manière immédiate.
Ça, faut leur demander. Mais non, après, avec ça, j'ai pris un peu de distance et je suis pas très proche d'eux, mais je discute souvent avec eux et vraiment, c'est des gars. Qui sont tellement pleins d'entrain, tellement pleins de joie qu'on a envie de passer du temps avec eux, qui ne sont pas du tout aigris ou marqués par cette douleur et tout ça. Enfin, si je pense, mais ils essaient vraiment de passer au-dessus et d'avancer. Mais non, ce que ça m'a fait, c'était... j'étais content, en tout cas, qu'ils valident le projet et qu'ils soient avec nous et qu'ils soient derrière Antoine, en fait, surtout. Et de ce fait, derrière moi, et c'est... Ça fait plaisir.
On le disait, le prisme de cette série, c'est la famille, les répercussions et les fractures que cause cette tragédie. Et dans cette famille, Iyam, vous êtes donc la mère, veuve, que ses enfants essaient d'abord de protéger en la tenant éloignée du drame avant évidemment qu'il ne la frappe de plein fouet. Une figure qui est à la fois hyper maternelle et qui refuse d'être infantilisée par les siens. Comment est-ce que vous avez abordé cette figure si singulière?
Oula.
Ah, c'est des vraies questions.
Oui, je sais. C'est des questions auxquelles vraiment malheureusement, je n'ai pas de réponse. Je ne sais pas. Et ça paraît peut-être étrange, mais quand on est dans la préparation d'un rôle, ça veut dire il y a une partie, j'ai envie de dire intellectuelle, une partie qui passe par la tête, toute la préparation qui se fait, et après il y a que à aller en fait. Et donc le à aller. Il se fait au moment où on a déjà préparé le costume, le maquillage, on a discuté de personnages, on a appris le texte, on sait d'où à où cette femme, elle va, quelle trajectoire elle allait traverser. Et il y a un réalisateur avec un cadre, et on rentre dans ce cadre, et il nous dirige vers l'émotion juste de chaque scène. La complexité, j'ai envie de dire, de cette femme, est quelque chose qui m'intéresse dans le cinéma et dans la télé. je n'aime pas tout ce qui flatte.
Et les nerfs.
Je n'aime pas vraiment quand on diminue l'être humain à juste un blanc ou un noir. Et qu'il y a toutes les couleurs grises qui se trouvent entre deux qu'on oublie complètement. Oui. Et je trouve que cette femme, elle est remplie de ces couleurs-là, de ce gris-là, et pas péjorativement, mais et que Antoine a su vraiment dessiner. Donc, il a su dessiner, et moi, j'ai fait que suivre.
Cette histoire a été largement récupérée à l'époque par les politiques de Robert Pendreau à Mitterrand, et comme si ce récit-là, à son tour, était condamné à être détourné, ce qui fut à nouveau le cas hein, dans de multiples affaires de bavures dites policières et il n'y a pas si longtemps que ça. Est-ce qu'une série comme ça, je pose la question à vous Saïd, qui faites partie de la nouvelle génération, peut servir à éclairer un peu pour rendre ce genre de détournement plus difficile à l'avenir?
C'est intéressant que vous parlez de détournement, c'est pour ça que Antoine, avec ses co-scénaristes, a pris le prisme de la famille. Je pense que c'est les premières personnes touchées par cette injustice. Et non, c'est super important, en fait. Je pense que les injustices, c'est un fait de la condition humaine. On en subira toujours. Mais d'en parler, peut-être, ça peut permettre de mettre le sujet sur le devant de la scène et essayer d'éviter, ou du moins de sensibiliser, en fait, tout le monde à ça. Autant que les policiers, que les citoyens, enfin, qui sont des citoyens eux aussi, d'ailleurs. Mais de faire attention à ça. Et je pense que l'art aussi peut éduquer, et là ça sert à ça, et pour toutes les autres histoires similaires, ça peut mettre un doigt sur quelque chose et essayer de limiter la casse, entre guillemets, hein.
Ouais.
Parce que maintenant on voit que ça touche énormément de gens, malheureusement.
La violence racontée dans la série est absolument sidérante, qu'elle soit physique ou morale, puisque la famille est victime d'un drame intime et d'un harcèlement raciste incessant. Qu'est-ce qui vous a le plus touché, le plus secoué dans toute cette histoire?
Personnellement, moi qui suis très proche de ma mère, ce que j'avais dit récemment, parce que je lui en avais parlé, elle m'a dit que si elle avait vécu ça, je pense que ça aurait été son plus gros drame. Je pense qu'elle serait morte de chagrin. Mais c'est cet harcèlement moral, vraiment. Je pense que la mort de Malik, la mort, c'est une chose qu'on doit tous accepter, qui va nous arriver. Donc ça arrive de certaines façons, par injustice ou autre. Mais là, subir l'incompréhension et ce harcèlement-là, dans l'ordre de l'intime et tout ça, comme on voit avec la grande sœur Fatna dans la série, comme on voit avec les tags, tout ça, je pense que c'est d'autant plus violent, en fait. Surtout qu'on a déjà subi un truc grave. Et là, c'est ça qui est important à raconter, en fait, pour que certaines personnes comprennent, en fait, ça. Et je pense qu'ils ne sont pas beaucoup à pouvoir supporter ça. C'est très, très dur.
C'est une très belle série que ce Ousekin diffusait à partir de demain sur Disney+. Une question qui n'a rien à voir, que je vous pose quand même, parce que on trouve Cadmerade dans la série, qui après Baron Noir prend la robe, celle de Georges Kijman, hein, qui était l'avocat de la famille Ousekin. Il est une fois de plus impeccable, comme toujours. Mais si dans la vraie vie, je suis sérieux, là, Cadmerade se propose pour vous défendre dans une affaire, quelle qu'elle soit, est-ce que vous y allez ou est-ce que vous demandez un temps de réflexion?
Non. Si c'est sur Burger Quiz, oui. Mais autrement dit, non.
Moi, je garde la réponse.
Vous réservez votre réponse. Très bien.
Bon, je l'adore. En fait, ce que je voulais juste dire, oui, si je me permets, en fait, la question est tellement intéressante de ce que ça. Comment, à quel endroit ça touche? Pour moi, ça a touché le sacré. Mmh. Dans le sens où c'est ce garçon, Malik Ousekin, était l'exemple à suivre. Et on a tué la réponse. En fait, on a vraiment tué la réponse. Qui était quoi? Un Français d'origine qui essaye de s'intégrer au max, même s'intéresser à la religion de ce pays pour pouvoir peut-être trouver des réponses. Il parle la langue, il parle même pas arabe, il parle la langue du pays, il s'intègre, il aime la musique occidentale comme tout le monde.
Et Simone.
Et voilà. Et en fait, c'est pour moi vraiment, c'est le sacrifice, en fait. Ce garçon était le sacrifice.
C'est pour ça que ça a pris cette ampleur-là.
Ouais.
Oussekin, je le rappelle le titre, hein, sur Disney+, à partir de demain. Bon, Yamabas Sayid El Alami, je rappelle que cette série est à ne rater sous aucun prétexte. Vous restez avec nous parce que dans un petit instant, nous allons examiner vos choix et vos recommandations à tous les deux en matière de pop culture. Ce sera votre pop list. Juste avant, je vous propose d'écouter ensemble les Black Keys et un morceau qui lui s'appelle Wild Child. Vous écoutez Pop à Pop, l'émission de pop culture de France Inter, ou plutôt l'émission qui traite la culture de façon... C'est quoi ce petit C'est ça pour vous, la pop culture?
Franchement, ça fait partie de... Même la musique, elle a été reprise tellement de fois, et elle est classique. Ouais, je regardais souvent avec mon père. C'est très cinématographique. Hein.
Ah, bah oui.
Pas besoin de texte, il y a juste un mec, une petite panthère. Avec des émotions, des problèmes, et c'est de régler un problème, et c'est comme la vie, c'est infini.
Et vous aimez Peter Sellers?
Un peu, mais du coup, c'est lui qui a fait la...
Oui, dans les versions cinéma. Oui, Peter Sellers. Bon, ouais. Ok. Allez, jingle. Nous vous avons demandé de choisir un livre, un film, une musique, une série que vous attendez. Votre choix de livre, je commence par vous, Saïd, c'est La prochaine fois le feu de James Baldwin. Charline, qu'en est-il de ce livre?
Un texte autobiographique dans lequel Baldwin raconte son enfance et sa vie de jeune adulte placée sous le sceau de la triple discrimination, noire, homosexuelle et pauvre.
Alors, pourquoi ce livre et pourquoi James Baldwin?
Pour ce qu'elle vient de dire.
Pour ces trois raisons-là?
Exactement. Bah, je pense que c'est très difficile pour quelqu'un quand tu es issu d'une minorité et de faire face à la société, en fait, à l'écrasement qu'on subit. Mmh. Et dans ce livre, en fait, il aborde tout ça et c'est quelque chose qu'il vit. En fait, même son exil en France, tout ça. Et il dit un truc, en fait, qui m'a marqué éternellement vers la 100e page, je retiens même précisément. C'est qu'il parle d'égalité et il raconte, en fait, que la question aussi à se poser et à poser à tous, c'est est-ce que tout le monde veut être à égalité? Mm-hmm. Est-ce que les gens ne veulent... Est-ce que vraiment on veut être à égalité ou chacun veut son propre privilège? Et il parle de toutes ces choses et de... et du feu qui peut arriver.
La prochaine fois, Le Feu, de James Baldwin, un très beau livre.
Mais j'en avais donné un deuxième, non?
Ah oui, non, on n'en okay. garde qu'un, parce qu'il okay. faut de temps, sinon va, il va y passer la journée. Saïd, j'y arrive. Votre choix en matière de série, c'est l'excellent Moon Knight, le tout nouvel opus de l'univers Marvel sur Disney+. Charline, qui est-il, ou plutôt qui sont-ils, ces Moon Knight?
Steven Grant est le discret employé d'une boutique de souvenirs, mais Steven souffre de gros blackouts, des absences durant lesquelles Mark Spector, un mercenaire, prend le contrôle. Les deux hommes partagent le même corps, et voilà que de puissants dieux d'Égypte s'en mêlent.
Yeah. Oh my God, you're alive. What's wrong with you, Mark?
Why did you call me Mark?
It must be very difficult. The voice in your head.
Shut up!
There's chaos in you. Embrace the chaos.
Moon Knight. Alors, regardez-moi dans les yeux et dites-moi franchement, vous êtes fan de Marvel?
Non.
Ou de Oscar Isaac?
Non plus.
Ah bon?
Non. En fait, je l'aime beaucoup. J'avais fait un film avec lui. C'était son premier film studio à l'époque, qui s'appelait The Nativity Story. Mm-hmm. Donc c'est sur la naissance de Jésus, ouais. et il était Joseph, et moi j'étais la mère de Marie, donc Sainte Anne. Mais c'est pas ça qui me fait regarder ça. Franchement, ça m'a intriguée de voir que Hollywood, il confie à Mohamed Diab, donc un réalisateur arabe, la conception, on va dire, et la réalisation de cette série. Mm-hmm. J'avais envie de savoir à tel point il était vraiment, il a pu impliquer ce qu'il pouvait impliquer. Mm-hmm. Et j'étais assez étonnée d'ailleurs d'entendre de l'arabe dans la série et même la musique arabe, la résonance, en fait, du Caire et tout ça. La deuxième raison, la vérité, c'est la fille qui joue dans le, c'est une amie à moi.
Michael Amaoui?
Oui, Mai, et elle joue ma fille dans Rami, la série, la deuxième Rami, la deuxième série que je fais aux États-Unis. Et donc, je voulais vraiment aussi pouvoir voir ce qu'elle a pu contribuer dans la série.
Choix validé, Moon Knight, on est d'accord, ouais,
je vais regarder les deux.
Très bien. Bah vous, en matière de film, c'est La Loi de Téhéran de Saïd Roustagi, sorti en 2019. Charline, qu'en est-il de La Loi de Téhéran?
En Iran, Samad, flic obstiné aux méthodes musclées, dirons-nous, met la main sur le parrain de la drogue, Nasser K, alors qu'il pensait la faire classer, la confrontation avec le cerveau du réseau va prendre une toute autre tournure.
هرچی ازت میپرسم اگر درست جواب ندی خودتو زنت میرین زندان بچهاتم یه راست بهسیستی من اسم میخوام
ناصر
ناصره؟
خاکزاد
Qu'est-ce qui vous plaît tellement dans cette loi?
J'ai rarement vu ça. Le seul film après qui m'a autant marqué, c'était un film similaire, mais en fait c'est dans l'écriture, c'est dans la complexité de la vie, la complexité de la survie en fait. À quel point, quand on survit, des fois, on est obligé de mettre à mal d'autres êtres humains, en fait, de détruire d'autres personnes pour s'en sortir. Et à quel point c'est un cercle vicieux et que si on ne le brise pas, c'est la fin. Et on va juste continuer à perpétuer tout ça. Et on le voit avec ce policier qu'on déteste au début, qu'on est là, il est super violent. Ensuite, on déteste le chef du réseau et on a un peu d'empathie pour le policier. Ensuite, le chef du réseau... Enfin, tout le monde... En fait, il n'y a pas... Rien n'est blanc ou noir. Et dans l'écriture, dans le jeu, dans tout ce que ça raconte de notre société, là, ça se passe en Iran, à Téhéran, et ça part du réel, en fait, parce que là-bas, il y a 6 millions de personnes addictes au crack. Ouais. Donc ça parle de cette situation-là précisément. Mais en fait, ça raconte tout sur notre société. Moi, j'ai pleuré pendant 20 minutes quand je suis sorti. J'étais pas prêt, je vais souvent au cinéma, donc j'y vais sans savoir ce que c'est.
Ouais.
Et il m'a bouleversé, en fait, sur l'humanité de l'humain et aussi son côté si horrible et sur la versatilité, sur la complexité. Et Saïd Roustagi est un réalisateur, je crois, incroyable. Et tous ces acteurs iraniens sont incroyables.
Enfin... Et ce film qui a fait pleurer Saïd, c'est donc La Loi de Téhéran. Bon, on finit avec la musique et c'est sur le choix de Yam que nous nous sommes arrêtés, même si Saïd avait choisi le très tentant des Enchantés de Mylène Farmer. Enfin, il a bien fallu faire des choix, faute de temps. Alors Yam, c'est donc le groupe libanais Soap Kills avec leur titre Galbi que nous allons écouter dans un instant. Pourquoi ce titre-là?
Parce que franchement... c'est, j'aime beaucoup la façon dont ça a été mixé, parce qu'elle l'a chanté d'une manière différente, mais c'est un truc qui a vécu avec moi. Là, je reviens de tournage de Rami saison 3 aux États-Unis, et comme j'ai réalisé une épisode, ce son m'a accompagnée sur un passage de mon épisode pendant tout le temps. J'étais obsédée, en fait. J'étais obsédée par ça. Et d'un seul coup, je me suis dit, mais c'est peut-être des choses que je n'écoute jamais en règle générale dans ma vie.
Ouais, ouais.
Mais quand je trouve que leur sonorité, elle sert à quelque chose dans mon travail, bah, la relation avec, elle devient complètement différente. Mmh. Et d'un seul coup, je découvre vraiment un amour de quelque chose que je n'ai jamais pensé aimer dans ma vie.
Eh bien, grâce à vous, on l'écoute aujourd'hui dans Pop 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 sur France Inter, les Soupkills, Galbi. C'est Galbi des Soupkills et c'était le choix de Yam Abbas, une de nos deux invités aujourd'hui. Merci Yam Abbas d'avoir choisi ce titre, de nous avoir rendu visite. Merci Saïd El Alami. Je rappelle que Oussekin, c'est à voir sur Disney+, que c'est magnifique et indispensable. Merci ma chère Charline.
Merci à vous.
Merci à tout le monde en fait.
Merci Charline.
Et merci à toute l'équipe de Pop 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 et à Alix Barrois qui était à la technique aujourd'hui. Demain dans Pop Pop Pop, François Allu, le nouveau danseur étoile de l'Opéra National de Paris, viendra nous rendre visite. Mais avant demain, rendez-vous partout sur les internets 3615 Pop Pop Pop.